Vous avez Jean au chapitre 6 ouvert devant vous, peut-être. En tout cas, je vous encourage à le faire. L'église de Cavaillon, notre communauté, elle existe pour glorifier Dieu, pour honorer le Père, en faisant de Jésus-Christ notre bien suprême, en nous délectant, en nous régalant de connaître Jésus-Christ lui-même. Et on veut faire ça dans la joie et la force que donne l'Esprit Saint. Et ça, c'est la raison d'être, non seulement de l'Église, mais de chacun d'entre nous. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et il y a des tas d'invitations dans la parole de Dieu de venir chercher cette satisfaction, ce plaisir, cette joie auprès de Dieu lui-même, auprès de sa parole, auprès de Jésus-Christ. Et il y a cette promesse d'être rassasié, comblé de tout bienfait physique, spirituel, tout ce que vous pouvez imaginer que vous avez besoin. Et même au-delà de ça, tout se trouve en Jésus. Car c'est en lui, en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité, dit Paul aux Colossiens. Il y a plein de versets dans Ésaïe. Venez, vous qui avez faim, pourquoi est-ce que vous cherchez à acheter du pain? Pourquoi est-ce que vous vous fatiguez pour du pain? Mais venez acheter gratuitement du pain auprès de moi, dit Dieu. Et au début du chapitre 6, nous découvrons alors Jésus, revenu en Galilée, qui effectue deux nouveaux signes. La multiplication des pains, et puis il marche sur l'eau. Et ces deux signes servent à diriger nos regards à nouveau vers l'auteur de ces signes. Et après avoir particulièrement développé notre compréhension de l'identité de Jésus, de son œuvre, au chapitre 5, c'est-à-dire donner la vie par sa parole, voilà ce que Jésus est et voilà ce qu'il fait, eh bien Jean nous amène à comprendre ce que c'est que croire en Jésus. Et on va voir la venue du pain descendu du ciel, on va voir les foules, les gens s'interroger comment trouver le pain, et puis, qu'est-ce que ça veut dire croire, se rassasier du pain de Dieu. Je vous invite à lire avec moi les 29 premiers versets, on ne va pas tout lire le chapitre, juste pour nous mettre tout cela en tête, je vous invite à lire. Donc chapitre 6, verset 1 à 29. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac, ils montèrent dans une barque, pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Et quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il a prié fortement. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Seigneur, nous prions que tu veuilles bien ce matin nous donner cette nourriture impérissable, éternelle, goûteuse, savoureuse, bonne, nourrissante, rassasiante, satisfaisante, par ta parole, par ton esprit. Seigneur, c'est ton œuvre de nous amener à croire en Jésus et d'être pleinement comblés en lui de toutes tes bénédictions. Seigneur, nous demandons, s'il te plaît, que selon ta promesse, tu fasses cela pour nous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui nous comble de grâce est encore à l'œuvre, vous l'avez remarqué. On l'a déjà vu plusieurs fois dans l'évangile de Jean et de nouveau, on est face à quelque chose d'absolument ahurissant d'un point de vue humain, la multiplication des pains. Jésus est donc au bord du lac, les foules accourent et Jean nous précise la cause de cela. Ils ont vu des signes miraculeux que Jésus a accomplis, les malades qui ont été guéris et ils veulent en voir encore, ils veulent voir cela de nouveau. C'est ça qui les attire vers Jésus. Et on a déjà vu que cette attirance pour les signes est un peu à double tranchant. Ça dépend. Est-ce qu'on en fait ceci? Est-ce qu'on voit vers qui il nous dirige? Ou est-ce qu'on reste juste au poteau indicateur? Et Jésus voit, il sait ce qui se passe dans le cœur des hommes. Il avertit déjà que les signes sont produits non pas pour eux-mêmes, mais pour révéler la bonté de Dieu. Notre état de pécheur spirituellement est gravement infirme. Et pour révéler le seul Sauveur Jésus, l'autorité de sa parole sur nos vies. Alors les foules arrivent très nombreuses autour de Jésus. Jean nous précise que c'était proche de la Pâque et ça va avoir une importance dans quelques instants. En fait, il y a une année qui s'est écoulée déjà depuis l'épisode où Jésus a chassé les marchands du temple. Il a parlé avec Nicodème pour rappeler chapitre 3. Et dans un an, à la prochaine Pâque, il sera crucifié, lui, l'homme parfait, au terme d'un procès injuste. On est à peu près au milieu du ministère public de Jésus. Mais Jésus sait ce qu'il fait, ce qu'il est venu faire, et c'est d'une splendeur et d'une profondeur époustouflante quand Dieu éclaire notre âme pour qu'on en comprenne le sens. En attendant, au début de ce chapitre 6, donc on est probablement à Bethsaïda, donc au nord-est du lac de Galilée. C'est la ville d'où vient Philippe. Et de nouveau, on voit, il y a beaucoup de monde qui est là. Elles cherchent Jésus, elles veulent être près de lui, elles veulent voir, elles veulent entendre quelque chose. Mais que cherchent tous ces gens au juste? Et du coup, ça nous pose la question aussi à nous. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait le déplacement ce matin? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus? Pourquoi est-ce que nous cherchons Jésus? Alors, il y a beaucoup de monde ce matin-là, cette journée-là, et Jésus se tourne vers Philippe qui est du coin et lui demande ben, « Où est-ce qu'on peut aller acheter du pain, Philippe ?» Philippe est un petit peu surpris. Et en fait, j'imagine, Jésus, c'est non seulement la question de où il faut aller, d'ailleurs c'est une question qui va revenir à la fin du passage, où aller, mais aussi de comment. Où et comment obtenir ce pain? Qui pourrait fabriquer assez de pain pour toute la foule? Et à supposer que quelqu'un dispose d'un stock suffisant en injure pour tout ce monde, comment est-ce qu'on va y aller? Comment est-ce qu'on va ramener tout ça? Comment est-ce qu'on va accéder à cette nourriture? Et il dit à Jésus, mais même avec 8 mois de salaire, on n'aurait encore pas suffisamment pour que chacun peut-être en reçoive un petit peu. 8 mois de salaire. Et Jean nous précise ici qu'il y a 5000 hommes présents. En fait, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous rapportent cette histoire de la multiplication des pains, ce signe miraculeux. Et Matthieu, il nous précise que c'était sans compter les femmes et les enfants, quand il nous relate le même épisode. Donc, selon les commentaires, on est peut-être autour de 20 000 personnes qui sont là, rassemblées devant Jésus. 1000 fois plus que ce qu'on est ce matin. 20 000 bouches à nourrir, 20 000 ventres affamés. Ils ont faim, réellement ils ont faim. C'est légitime d'avoir faim. Et vous imaginez si Jean et Anne se demandent comment ils vont faire quand leurs garçons vont devenir ados pour les nourrir. Vous imaginez Philippe face à la question de Jésus, mais tu te rends compte de ce que tu demandes, Jésus? Où est-ce qu'on va chercher ce pain? Comment est-ce qu'on va le faire? André, un tout petit peu plus avancé, mais d'un cheveu. Hein. On a 5 pains et 2 poissons, mais sa foi naissante, elle reste pleine de doutes. Qu'est-ce que c'est que ça pour tant de monde? Qu'est-ce que c'est que ça pour tant de monde? Et juste, personnellement, en lisant ce passage, Dieu m'a fait du bien cette semaine, parce que de façon tout à fait imprévue, j'ai reçu un coup de fil en début de semaine d'une dame totalement confuse, qui se dit chrétienne, mais totalement confuse par rapport au message de la Bible. Et alors qu'on discutait ensemble au téléphone, c'était de plus en plus clair que la mort spirituelle dont Jésus parle était clairement à l'œuvre chez cette dame. Elle ne comprenait rien, elle ne voyait pas Jésus. Elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir par elle-même. Personne ne comprenait pas ici. Et c'était juste un rappel des dizaines de milliers d'autres dans la région qui ne comprennent pas, qui ne voient pas leur situation, qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu, qui ne comprennent pas comment Dieu va faire pour les satisfaire, les nourrir, pour les sauver. Et j'étais dans un sens triste. Qu'est-ce que nous sommes pour une population si nombreuse autour de nous? Mais Jésus, lui, il sait ce qu'il fait. Et lui, il a une confiance forte dans son Père. Un cœur entier pour son Père. Confiance joyeuse, calme. Faites asseoir ces gens. Il dit, faites asseoir ces gens. Et quand c'est fait, vous avez remarqué, il a remercié Dieu. Et Jean, plus tard, il dit, il rappelle que Jésus a remercié Dieu avant de multiplier le pain. Et puis il a distribué à la foule. Comme ça. Avec générosité. Avec abondance. La foule était très grande. Et contrairement à ce que Philippe pensait, non seulement chacun a reçu, mais chacun a reçu beaucoup plus qu'un peu. Autant qu'ils en voulaient. Tout le monde a été rassasié. Il y a même eu des restes. Des paniers entiers. Pour ceux qui n'avaient pas été là, qui auraient aussi un jour part à cette même nourriture, ce même pain descendu du ciel. Est-ce que vous voyez, de nouveau encore ce matin, la bonté de Dieu? Dieu est généreux, Dieu est bon. Et tous ceux et celles qui viennent à lui vont trouver de quoi être rassasiés. Jésus savait ce qu'il allait faire. Quand le Fils a été fait chair, il savait ce qu'il allait faire dans les moindres détails, même ce jour-là de la multiplication du pain. Et réjouissons-nous alors, parce que Dieu est un Dieu qui se soucie de sa création, de toute sa création. Et vous avez remarqué, cette foule, elle n'était pas spécialement pieuse. Elle est venue pour voir du spectacle religieux, elle est venue pour voir des miracles, des malades peut-être, guérir et se remettre à marcher. Elle n'était pas après Jésus pour le connaître lui, elle n'était pas après Dieu pour mieux entendre sa voix au travers de Jésus. Mais Dieu est bon, c'est dans sa personne à lui d'être bon et généreux, et il fait du bien à toute cette foule qui est rassemblée. Cette grâce de Dieu se répand sur les justes comme sur les injustes. Vous connaissez ce passage. Dieu fait pleuvoir, il fait tomber sa pluie autant sur les justes, sur les injustes. Et c'est pas une malédiction la pluie, hein. C'est pour qu'il y ait des champs qui puissent porter leurs fruits, que la terre soit nourrie pour nourrir les hommes. Même ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui, en cette seconde même, sont de toute façon au bénéfice de sa bonté, de sa générosité. Si Dieu n'était pas bon et généreux, on ne serait pas du tout là. Il y a une grâce commune à tous, qui est bonne et généreuse. Et cette grâce, si tu en aperçois un petit bout ce matin, elle est là pour t'interpeller, elle est là pour nous interpeller, hein, pour interpeller ceux et celles qui recherchent véritablement Dieu. Pas pour qu'on s'arrête à cette grâce-là, pas pour qu'on s'arrête au bienfait que Dieu nous accorde jour après jour, mais pour attirer nos regards vers qui est celui qui nous donne si généreusement, qui est si bon avec nous, pour nous pousser à le connaître, pour qui il est, et non sur comment il pourrait nous être utile. Vous détestez ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous considère comme un ami, mais uniquement parce que vous pouvez lui être utile, parce que vous allez pouvoir lui apporter quelque chose. Le jour où c'est fini, vous disparaissez de son écran radar, il ne vous connaît plus, il vous croise dans la rue, c'est à peine s'il vous salue. Ça, ce n'est pas la relation, ça, ce n'est pas la vraie amitié, ça, ce n'est pas l'amour. Vous imaginez qu'ils ont mangé et vu à côté d'eux des dizaines de milliers manger à la fin. Ils se disent, cet homme est vraiment extraordinaire. Et leur pensée, c'est de dire, bah, utilisons-le. Faisons de lui notre roi. Comme ça, nous n'aurons plus à nous fatiguer à travailler. Il nous donnera notre nourriture. Ils se sont mis à chercher le pain, mais pas le pain descendu du ciel. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça. Vous avez remarqué, ils sont au bord du lac pendant la nuit. Jésus a traversé avec les disciples de l'autre côté. Un épisode qui marque clairement la divinité de Jésus. Il marche sur l'eau. Hein, c'est juste normal. Et il arrive au moment où il rejoint les disciples. Pouf, ils sont de l'autre côté. Ils sont déjà arrivés à destination. La chose qu'ils n'arrivaient pas à faire eux-mêmes, impossible. Ils ramaient contre vent et marée. Hein, pour l'expression bien connue. Mais il suffit que Jésus soit là et hop, ils arrivent. Alors, la foule le matin, elle est là, elle cherche, mais où est Jésus? Le roi qu'on a besoin, il faut qu'on le retrouve. Et il y a même des gens qui étaient du sud-ouest, donc de Tibériade, qui traversent en diagonale le lac, ils arrivent parce qu'ils ont appris que Jésus était dans ce coin-là, du côté de Bethsaïda. Ils retrouvent la grande foule des 20 000 qui était là, qui a été nourrie la veille, et ils cherchent tous Jésus. Et voyons qu'il y a des barques à disposition, boum! Je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme spectacle sur le lac de Galilée. 20 000 personnes en train de traverser de Bethsaïda à Capernaum, au nord-ouest, donc de l'autre côté du lac. Jésus, mais quand es-tu arrivé ici? On te cherche partout. La foule cherche Jésus. Elle parcourt des kilomètres. Elle traverse le lac. Elle ne ménage pas ses efforts. Peut-être c'est l'expérience de votre vie avant de vraiment connaître Jésus. Vous avez parcouru des kilomètres, vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous étiez à la recherche. Qui peut vraiment satisfaire mon âme? Et peut-être ce matin, il y en a ici qui sont encore dans cette recherche. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas rassasiés. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus? Est-ce que c'est pour lui-même? pour le connaître lui, le pain de Dieu descendu du ciel, ou c'est pour avoir la fin à tous vos problèmes? Est-ce que c'est pour satisfaire vos besoins ressentis, ou est-ce que vous voyez votre besoin profond? Que ce soit physique ou spirituel, mais profondément, d'être connecté, d'être en relation avec le Dieu qui vous a créé et qui continue de soutenir votre existence par sa parole en cette seconde même. Est-ce que vous cherchez Dieu pour garantir vos propres projets avec des coups de pouce divins parce qu'il vous serait bien utile pour votre vie, ou est-ce que vous l'aimez lui pour qui il est? Quel genre d'amitié est-ce que vous avez avec Dieu? Jésus est-il digne d'être suivi, même sans la santé, même sans travail, même sans la liberté? Regardez nos frères et sœurs persécutés. Ils crient, oui, Jésus est plus digne d'être aimé, d'être connu, que même la liberté. Mais la foule, elle, a d'autres solutions. Pour elle, dans le passage, pour la grande majorité d'entre eux, Dieu n'est pas Dieu en lui-même, mais un Dieu à tout faire, qu'on utilisait à sa guise. Et ils ont tout un tas d'autres agendas, d'autres programmes pour Jésus. Ils ont des alternatives à ce que Jésus est vraiment venu faire. Faisons de Jésus notre roi, plus besoin de travailler, du pain pour tout le monde. Et voyez la réaction de Jésus au verset 15. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirera de nouveau sur la montagne, tout seul. Jésus n'est pas en train de mettre en place un programme politique de changement des structures de la société. Le salut, il n'est pas dans le changement des structures sociales de notre monde. Comme Jésus ne semble pas trop disposé à être roi, alors il continue de le poursuivre. Et alors, deuxième idée, c'est faisons de Jésus le chef du programme de sécurité sociale. Il ne peut pas être roi, peut-être il veut être ministre du travail ou de la solidarité. Mettons au point un grand resto du cœur. Et verset 27, Jésus dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Le salut n'est pas non plus dans un programme économique, dans un programme de réorganisation du travail, du marché du travail, de l'entreprise. Et vu que Jésus ne semble pas trop aller dans leur sens encore, alors si c'est ni politique, ni social, ni économique, ça doit être religieux alors. Donc, il demande à Jésus, donne-nous des rites et des actes religieux à faire. Allez les gars, soyons performants dans la dévotion religieuse. Vous voyez ça, verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Peut-être Jésus va nous donner des choses à faire religieuses pour en assurer sa bonté. Mais Jésus leur répond au verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ouf, compliqué Jésus, n'arrive pas à le saisir on dirait, il ne rentre pas dans les cadres humains. Alors il tente une dernière chose, si ce n'est pas un travail religieux à accomplir, alors divertis-nous par des signes et des prodiges, s'il te plaît Jésus. Verset 30, « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Passons sur le fait qu'il vienne juste de le voir, ces signes. On a déjà vu ça, la guérison de l'infirme à Bethesda, et tout un tas de choses sont tellement évidentes dans un sens. Et ça nous parle de l'aveuglement spirituel qui recouvre nos cœurs, tant qu'on n'a pas réellement connu Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'actes religieux et de rites à faire, contraignants, d'ascétisme, etc., alors on veut voir des signes et des prodiges pour qu'on se sente bien. Vous voyez, ceux et celles qui sont rendus à ce point, ont changé les données de la question. Ils ne se disent plus, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus a une vérité pour nous? Est-ce qu'il dit vraiment le monde tel qu'il est? Ce n'est pas ça qui compte pour de telles personnes. Mais est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça m'impressionne? Est-ce que ça me fait me sentir à l'aise? Et je voudrais juste dire de nouveau, Jésus il semble insaisissable, mais ce n'est pas, et vous l'avez compris j'espère, de l'indifférence de Jésus. Ce n'est pas qu'il est juste un cerveau sur pattes, et que tout ce qui est matériel, ce serait quelque chose de pas intéressant, négligeable. Non, Jésus se soucie du monde du travail, il se soucie de la justice sociale. Il a donné des lois à son peuple. Il a exprimé une volonté dans ce domaine. On peut lire ça aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jésus vient de nourrir la foule. Il a pris soin de ses besoins physiques, juste premiers. Il est capable de faire ça. Il veut le faire. Mais il y a plus que ça. Et quel dommage ce serait de s'arrêter à ces bénédictions-là. Travailler non pour le pain, la nourriture périssable, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et ce travail, c'est Dieu en réalité qui l'accomplit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et en croyant, alors il y a la vie éternelle. Voyez, ça revient à plusieurs endroits, au verset 33. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Plus que 20 000 personnes, des milliards d'êtres humains sont concernés. Encore au verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. C'est plus que pour cette vie terrestre. C'est non seulement pour maintenant et pour la vie au-delà de la mort. Voilà la promesse de Jésus. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 50. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Pourquoi travailler pour du pain périssable quand on peut avoir un pain qui nourrit et qui nous fait vivre éternellement? Verset 51. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Jésus se soucie véritablement de nous. Alors les foules disent, on a entendu tout ça, mais c'est très bien, mais Dieu a donné de la manne dans le désert au peuple d'Israël, en route pour la terre promise. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça pour un signe? Ça, c'est concret. Est-ce que tu pourrais faire mieux? Tu es content, tu as nourri 20 000 personnes pour un jour, mais là-bas, il y avait peut-être 2 millions. Et pendant 40 ans, jour après jour, ils ont reçu la manne qui descendait de Dieu. Et c'est Moïse qui a demandé ça pour nous. Et Dieu lui a donné. Et Jésus répond, les amis, c'est le Père, le même Père qui m'a envoyé, qui était en train de nourrir le peuple dans le désert avec cette manne. Et ça, c'était qu'une ombre des choses, des réalités qui sont maintenant devant vous. Je suis, moi, le pain véritable descendu du ciel. Croyez en moi et croyez en Dieu et vous aurez la vie éternelle. Vous savez, en se rappelant de tous ces épisodes-là, Moïse lui-même a dit au peuple, à la deuxième loi, juste après les 40 ans dans le désert, au moment où il s'apprêtait enfin à rentrer dans le pays promis, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a chanté. Et de nouveau, la vision terre à terre nous empêche de voir qui est Dieu et ce qu'il est en train de faire dans le monde. Tu peux manger du pain et mourir demain. Tu peux guérir d'une maladie aujourd'hui, mais on va voir une autre se déclencher demain. C'est juste la réalité de notre monde aujourd'hui. L'infirme de Bethesda, magnifique, on ne méprise pas ça, on se réjouit pour les guérisons et les choses que Dieu fait dès maintenant. Mais il y a plus que ça. Cet infirme, il a quand même dû affronter la mort. Même Lazare qui était mort, qui commençait à sentir dans son tombeau, il a été ressuscité, mais c'est juste prodigieux. On ne doit pas dire c'est rien du tout, peu importe la vie terrestre. Non, Dieu s'est soucié, il a eu la compassion pour son ami, pour Marthe et Marie, pour cette famille. Il a ressuscité Lazare, il voulait montrer sa puissance dès maintenant. Mais même Lazare ressuscité, il a dû réaffronter la mort une deuxième fois. Je ne sais même pas si ce serait une chose qu'on a. Sauf si nous avons Jésus, sauf si nous avons reçu, goûté, savouré ce pain qui donne la vie éternelle. Qu'est-ce qui te reste quand tout est enlevé? Jésus dit, il promet, si vous me recevez moi, personne ne peut vous l'enlever. Si vous me recevez moi, je demeurerai toujours avec vous, je vous garde pour toujours. Et du coup, on peut dire, si je n'ai pas la santé, j'ai Jésus-Christ. Si je n'ai pas mon portefeuille bien rempli, j'ai Jésus-Christ. Si je n'ai pas de smartphone, j'ai Jésus-Christ. Et ça me suffit. Ça me rassasie. Avec Jésus, j'ai reçu abondamment tout ce dont j'ai besoin pour ma vie. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, Paul nous l'a rappelé ce matin. Nous pouvons goûter les bienfaits de Dieu, comme le peuple dans le désert. Chaque jour, ils avaient la manne. Il paraît que ça avait le goût du miel, la berteau de miel. C'est pas quelque chose de mauvais, hein, affect à manger. Donc c'était délicieux. Mais ça n'a pas servi à amener le peuple véritablement à Dieu. La manne qui tombait miraculeusement du ciel pendant toutes ces années n'a pas empêché le peuple de rester incrédule, de râler, de murmurer contre Moïse et contre Dieu lui-même, de désirer retourner en Égypte dans l'esclavage, plutôt que d'apprécier la bonté et la générosité de Dieu. Et de nouveau, vous voyez, la question, c'est pas d'en voir assez pour être suffisamment convaincu, c'est pas d'avoir assez de connaissances pour dire là, vraiment, je peux me décider. La question et le problème, c'est la mort spirituelle à l'œuvre dans les cœurs. C'est l'aveuglement spirituel, le péché, le cœur de pierre qui a besoin d'être changé en cœur de chair. Et là, de nouveau, les Juifs murmurent à son sujet parce qu'il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Ils ne voient pas Dieu à l'œuvre. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas la façon dont Dieu agit parce que ça ne rentre pas dans leur cadre à eux. Nous connaissons son père et sa mère. Qui est-il celui-là pour dire « Je suis descendu du ciel » Et Jésus dit en fait qu'il faut rien de moins qu'un miracle pour avoir les yeux ouverts sur cette réalité-là. Verset 44. « Personne ne peut venir à moi. » À moins que le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et si vous avez vu Jésus, et si vous avez commencé à goûter à Jésus, et si vous commencez à être comblé et satisfait par Jésus, plus que toute autre chose dans votre vie, même votre conjoint, même votre travail, tout ce qui peut vous passionner, c'est une œuvre de Dieu dans votre vie, un miracle de Dieu. Et il y a des raisons alors de louer Dieu qui ne vous a pas laissé dans ces ténèbres et cette obscurité spirituelle. Et si ce n'est pas votre cas, c'est à Dieu que vous devez aller. Dieu, montre-moi Jésus. Permets-moi de voir, de comprendre son œuvre. Jésus dit, verset 48, « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne, dans le désert et sont morts, sont tombés en panne gravement. » Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Et c'est là que l'information que toute cette histoire-là se passe à Pâques. ça nous aide à comprendre pourquoi Jésus parle d'un pain céréal, si vous voulez, et puis maintenant il est en train de parler de son corps. Connaître Jésus, c'est être nourri, c'est être en relation de nouveau avec Dieu, et ça va passer par le pain qui va être rompu, son corps qui va être brisé, crucifié sur la croix pour le salut de tous. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître Jésus que de voir clairement Jésus sur la croix, en train d'aimer le monde perdu, de venir le sauver, de venir le nourrir, de venir le combler de tout ce qu'il avait perdu au moment de la chute, en se détournant de la relation avec le Père, le Créateur. Ça ne plaît pas à tout le monde. Comment est-ce que un roi pourrait souffrir pour son peuple? Comment est-ce que il faudrait mettre toute notre espérance dans cette seule personne de Jésus? Et voyez, les Juifs sont en train de discuter vivement entre eux, ils contestent ça. Et Jésus leur dit, en vérité, verset 53, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie de Dieu en vous-même. Est-ce que vous avez faim pour les choses éternelles? Ou êtes-vous trop vite satisfait? Souvent, je réalise dans ma vie chrétienne, dans ma marche de disciple à la suite de Christ, je suis trop vite satisfait. Je suis content, j'ai lu un passage, un verset, j'ai fait ma lecture, j'ai prié. Et plus tard dans la journée, je cherche ailleurs que en Jésus de nouveau les solutions. Je cherche ailleurs que en Jésus la satisfaction, la joie légitime que j'ai besoin. Est-ce que vous avez faim pour les choses éternelles? Est-ce que vous êtes trop vite satisfait? Et si Jésus dit « Je suis le pain descendu du ciel », il faut venir et manger, s'abreuver auprès de moi pour être comblé. Le grand problème, le premier, c'est si on n'a pas faim. On était hier à l'Assemblée Générale à Paris, on était accueillis par une église franco-vietnamienne. Donc c'était l'hospitalité orientale, on a été gâtés, choyés. Ils nous ont servi un excellent repas, des nems, je ne dis pas, en entrée, et puis un plat de volaille avec une super sauce et des desserts autant qu'on en voulait. Si on était venu demander après, est-ce que vous en voulez encore, en fait, même à la fin, ils ramenaient encore des gâteaux, etc. Enfin, c'est des amis, mais on n'a plus faim, on désirait plus manger, on était comblés. Et parfois, on stocke tellement de choses en dehors de Dieu que ça nous satisfait, ça nous bourre le vent, si vous voulez, mais en réalité, ça nous empêche d'avoir véritablement faim pour les choses qui nourrissent véritablement. Quand on n'a pas faim, ça peut être aussi des fois le signe d'une maladie. On souffre pour ceux qui, physiquement, dans cet état aujourd'hui, peuvent souffrir de cette maladie. Ne pas avoir faim, être dégoûté de manger. Et Jésus, il est venu et tout ce qu'il dit, si c'est pour faire naître notre appétit pour lui. Et puis si vous avez de l'appétit, ben, vous voulez de la nourriture concrète. La nourriture, c'est fait pour être mangé. Pensez à de la nourriture. Imaginez le bon plat que vous allez manger tout à l'heure, qui est peut-être en train de griller là dans votre four parce que vous avez programmé tout ça. Ça ne vous nourrit pas, ça ne vous permet pas de dire j'ai mangé, je suis satisfait. La nourriture, elle est préparée pour être mangée. Jésus est venu pour nous donner cette nourriture. Quand on mange, c'est un acte de confiance aussi. Parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, ça va nous donner les calories, l'énergie, les vitamines, tout ce dont on a besoin. On mange parce qu'on sait que la nourriture n'est pas empoisonnée ou avariée, sinon on ne mangerait pas. Vous avez remarqué aussi que manger, c'est dans le cadre du partage. Souvent on mange et c'est difficile de manger tout seul, c'est pas très agréable. Pour ceux qui bossent et à midi ils ont des pauses et puis peut-être vous n'avez pas des collègues, je ne sais pas, bah, c'est pas très fun de manger tout seul. Ou les épouses peut-être qui restent à la maison et à midi tout le monde est parti. Il y a de la joie à partager cette nourriture ensemble. Il y a un aspect communautaire à manger. Puis juste une dernière idée, comprendre pourquoi Jésus dit « Venez et mangez ». Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voyez l'image, tout ce que ça amène de confiance, de partage, de réel, de concret, d'appétit. Et enfin, une pensée encore, on mange pour soi-même, n'est-ce pas? On ne peut pas manger pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas manger en espérant que ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. Et ça ne sert à rien d'être dans cette église et de voir d'autres manger si vous, chacun, personnellement, on ne vient pas ensemble manger à Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas croire à votre place. Vos parents ne peuvent pas croire à votre place. Chacun est invité. Et il y a de la place pour tout le monde, mais chacun est invité à venir personnellement manger de cette nourriture. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Verset 55, verset 56. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Alors, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Quand vous avez votre assiette devant vous et qu'à la fin du repas elle est vide, où est partie cette nourriture? En fait, à un moment elle disparaît en vous, elle s'assimile en vous. C'est le but de la digestion, c'est qu'on prenne toutes les bonnes choses et qu'ils nous construisent, ils construisent nos os, ils construisent nos muscles, ils font fonctionner notre système nerveux, ils font fonctionner notre système de circulation sanguine, etc. La nourriture, elle est faite pour assimiler. Et Jésus dit que celui qui vient à lui, repas après repas, instant après instant, passé avec Jésus, ça va construire qui nous sommes, notre vie, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Alors, verset 58, « Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Quelle promesse! Je sens que c'est un peu lourd ici, mais c'est une promesse, d'accord? C'est une bonne chose, c'est une bonne parole de Jésus, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. La promesse, elle est pour chacun, ici, ce matin. Alors, il y a plusieurs réactions à cela. Juste pour terminer, il y en a trois. On peut rejeter ça. Vous voyez au verset 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples, il ne s'agit pas des 12, mais de ceux dans la foule qui ont commencé à se poser des questions, à se dire peut-être qu'il y a quelque chose chez cet homme, peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'on peut mettre du crédit à ses paroles. Et ils disent, cette parole est dure. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Cette parole est dure. On doit croire un Messie qui va donner sa vie, qui va souffrir. Ça ne paraît pas très glorieux, cette parole est dure. Nous voulons un roi qui règle nos problèmes. Pas un roi qui nous demande de le suivre. Dans ce chemin-là. Et puis, alors Jésus... Donc, ce verset nous montre qu'il y a du rejet. En entendant cette parole, peut-être certains sont tentés de rejeter la promesse, l'invitation de Jésus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La promesse de Jésus est très bonne. Faites confiance, continuez d'explorer, continuez de vous approcher de Jésus. La deuxième réaction possible, c'est de croire, mais croire superficiellement. Et les foules ont fait un peu ça. Vous voyez, elles sont à la recherche parce qu'il y a des bienfaits. Il y a des bonnes choses à connaître Jésus dès cette vie ici. Mais c'est plus que ça. Et si vous vous arrêtez juste au poteau indicateur sans aller jusqu'à la destination finale, vous ratez quelque chose. Et en réalité, vous n'avez pas vraiment été éclairé par le Seigneur Dieu lui-même. La troisième, qui est l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Et plusieurs ici ont déjà goûté et vu combien Dieu est bon. Réjouissez-vous, réjouissons-nous de cela. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Qu'est-ce Quelle joie de voir et d'avoir peut-être expérimenté pour vous-même, entendre résonner ces paroles, pas juste les tympans, mais dans le cœur, au fond de notre âme. Combien vous avez été rassasiés ce jour-là en retrouvant la maison du Père, en étant en paix, sachant que Dieu prend votre vie en charge, non seulement dès maintenant, mais pour la vie éternelle. Vous ne mourrez pas, vous ne passerez pas en jugement. Vos péchés sont effacés. Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix pour s'assurer que nous ne manquions jamais de rien. Qu'au dernier jour, nous soyons protégés de la colère de Dieu. Non seulement protégés, mais même accueillis par un Père prêt à nous adopter. Apaisé lui aussi. Réjoui. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Personne ne peut venir à moi, encore verset 65, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Et de nouveau, je prie que chacun, chacune ici fasse cette expérience-là. Et quand ils entendent ça, plusieurs qui écoutent se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec Jésus. Jésus se tourne alors vers les douze et dit, vous ne voulez pas aussi vous en aller? La question résonne jusqu'à aujourd'hui. Et vous? Vous êtes libre. Vous ne voulez pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre répondit, Seigneur, où aller chercher du pain? Vous vous rappelez la question du début, mais Seigneur, à qui irions-nous? Nous allons trouver le boulanger qui a assez de pain pour tout le monde. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous croyons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà qu'est-ce que c'est véritablement croire. C'est trouver tout son plaisir, toute sa joie, c'est mettre toutes ses espérances en Jésus et en sa parole. Que Dieu soutienne notre foi à tous.